25 versets. Voilà. Alors, on va pas rentrer dans le vif du sujet. Alors, qui est ce Jude? Bon, ben, le mot dans le texte original, c'est Yuda, ou Judas. Ça veut dire Judas, hein, en fait, c'est pareil. Et il se présente lui-même, je vais quand même lire le texte, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Donc cette épître nous concerne, puisque je pense nous sommes aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Donc vous avez vu, il se présente comme étant le frère de Jacques, qui était l'un des principaux responsables de l'église de Jérusalem, et donc par là même, demi-frère de Jésus, puisque Jacques était un frère de Jésus, un demi-frère. L'un de ceux qui, initialement, ne croyaient pas en lui. La parole nous dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Mais les choses ont changé après sa résurrection. Alors, à qui écrit-il? Eh bien, manifestement à des chrétiens, ceux que Dieu a appelés à lui et qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Il écrit à des chrétiens. Quel est le motif de sa lettre? Alors, on l'a dans le verset 3. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Donc voilà le sujet de sa lettre. Donc on voit qu'il voulait initialement leur écrire simplement pour s'entretenir avec eux de leur comme un salut, hein ? Mais il y a une urgence qui le fait changer de sujet. Cette urgence, c'est les avertir et leur donner des instructions au sujet des faux frères doublés de faux docteurs qui se sont glissés parmi eux. Donc une nécessité absolue domine sa lettre. Lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Qu'est-ce que c'est que cette foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint? Eh bien, c'est tout le corpus de l'enseignement de Jésus et des apôtres qu'il a lui-même choisi pour transmettre cet enseignement. Jésus n'a rien écrit, en tout cas aucun écrit ne nous est parvenu de Jésus. Mais son enseignement a été fidèlement mis par écrit par ses apôtres. On peut noter que Jude, au verset 17, là on n'a pas encore lu, mais leur dit « Rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. » Donc s'il dit « les apôtres », c'est que lui, il ne se range pas au rang des apôtres. Peut-être par modestie. Alors, il y a un mot très important, là c'est « une fois pour toutes ». C'est le mot « apax » en grec. Il signifie que seuls les écrits des apôtres du Christ et d'une poignée de quelques autres sont canoniques, c'est-à-dire reconnus par les pères de l'Église primitive comme fiables, des textes sur lesquels nous pouvons et nous devons baser notre foi. Cela inclut les auteurs des quatre évangiles, bien sûr, les écrits de Paul, l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques, les épîtres de Pierre et de Jean, et aussi l'épître de Jude. Cette notion est fondamentale. Je ne sais plus si c'est le seul. Les protestants en général, revendiquent de s'appuyer exclusivement sur l'Écriture. C'est le fameux slogan « sola scriptura » en latin, hein, qui veut dire « l'Écriture seule », et c'était le slogan du XVIe siècle des réformateurs. Les églises catholiques, romaines et orthodoxes ont une approche toute différente, il faut le savoir. Ils ne sont pas d'accord de fonder leur foi sur l'Écriture seule. Sur la base de 1 Timothée 3, verset 15, l'Église est colonne et soutien de la vérité, un lieu où elle est fermement établie, Les docteurs de ces églises soutiennent que seul le magistère de ces églises est apte à interpréter et enseigner les Écritures. Il faut entendre par magistère les docteurs autorisés à enseigner, avec à leur tête l'évêque de Rome, le pape, dont la parole est qualifiée d'infaillible lorsqu'il s'exprime comme docteur de toute l'Église, le mot catholique signifiant universel. Donc vous avez le verset 1 Timothée 3,15, qui est tout à fait scripturaire. Hein, l'Église est colonne et soutien de la vérité, un lieu où elle est fermement établie, oui. Mais elle n'est pas l'origine de la vérité. Ça, c'est une notion fondamentale. De plus, selon le magistère catholique, le corpus des Saintes Écritures n'est pas la seule base de foi. La tradition de l'Église, élaborée au fil des siècles, est aussi une seconde source de foi. C'est ainsi que le magistère de l'Église, catholique et orthodoxe, a ajouté à l'enseignement des apôtres divers points de doctrine, hein, que vous trouverez facilement si vous consultez par exemple le catéchisme de l'Église catholique. Par exemple, la vénération de Marie, due à Marie et aux saints, canonisée par l'Église. Le fait qu'on puisse obtenir d'elle et des saints des grâces particulières. La doctrine de la régénération baptismale, c'est-à-dire que le fait d'être baptisé fait de vous un enfant de Dieu. La doctrine du purgatoire, qui veut qu'il y a un reste de péché qui reste à pardonner, si vous voulez, même après la mort, hein, comme si l'œuvre de Christ n'était pas pleinement suffisante. La doctrine de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire que la Vierge Marie serait montée au ciel corps et âme à sa mort, hein, et qu'elle est vivante au ciel, exactement comme Jésus maintenant. Hein. C'est pour ça qu'on peut la prier. La pratique des indulgences, qui est toujours en vigueur. Vous savez que c'est ce qui avait mis le feu au XVIe siècle aux poudres et qui a fait démarrer la réforme avec Luther, hein, la pratique des indulgences, ben, figurez-vous que ça existe toujours. Le sacrifice de la messe, etc. etc. Il y a plein de points de doctrine qui sont des choses rajoutées par le magistère de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe que nous, protestants, ne recevons pas. Alors on va lire la suite. Au verset 4, Jude dit « Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. » Oui, déjà à cette époque. « Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul maître et sauveur. » Donc des faux frères et des faux docteurs, hein, qui se sont introduits furtivement, donc sans trop faire de bruit au début, semble-t-il, hein, parmi les croyants. Et Jude dit que leur condamnation est annoncée d'avance dans l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et Jude va en donner plusieurs exemples. Je vais le lire. Au verset 5, « Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. » Donc, il fait référence à l'Ancien Testament. « Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. » J'ai dû aller trop loin, là, dans mes diapositives. Non. Bah, si, c'est ça. Là, il fait allusion, voilà. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. L'apôtre Paul va reprendre ça en 1 Corinthiens 10. « Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les suit, qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. et là c'est la chute, hein, malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, plein d'hommes qui avaient fait l'expérience des bonnes choses qui viennent de Dieu, qui ont pu, sous la conduite de Moïse, traverser la mer Rouge, être sauvés du Pharaon, mais qui sont quand même tombés dans le désert. Image de ceux qui, éventuellement, même baptisés, l'Église catholique notamment parle du peuple de baptisés, oui, peuple de baptisés, d'accord, mais parmi ces baptisés, il y a quoi? Il y a plein de gens qui ont eu une expérience initiale, bon, quand ils ont été baptisés nourrissons, ça, on n'en parle même pas, mais même par la suite, et qui pour autant n'ont pas persévéré. Alors là, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, je reviens au verset 4. Le fait que Jude dise que ces hommes, là, ces faux docteurs, travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Ils visent là, je pense, une grâce permissive, tolérant l'impureté sexuelle. Chez Paul, c'est très net, en 1 Corinthiens 6 et 1 Thessaloniciens 4. Alors, est-ce que c'était le suivant? Non. Voilà. En 1 Corinthiens 6, voici ce que dit Paul. « Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée ? Jamais de la vie. » De même, Paul, en 1 Thessaloniciens 4, verset 3, écrivait « Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité. » Et en l'occurrence, là, il vise l'immoralité sexuelle. Et donc il termine ce passage en disant qu'il renie Jésus-Christ, hein, avec ses pratiques, notre seul Maître et Seigneur. Alors il y en a d'autres qui renient que Jésus-Christ est le seul Maître et Seigneur, par exemple les témoins de Jéhovah, là, vous le savez. Alors maintenant Jude va prendre l'exemple de mauvais comportements, tant humains que angéliques, curieusement. Donc on a vu ce qui s'est passé concernant les Israélites, qui avaient rouspéter lors de la traversée du désert, et de ce fait-là, beaucoup d'entre eux sont morts, enfin la majorité d'entre eux sont morts dans le désert. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont refusé l'autorité de Moïse, leur conducteur. Curieusement, Jude va maintenant parler des anges. Au verset 6. Dieu a gardé, enchaîné à perpétuité dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Alors ça, c'est un petit peu mystérieux. Hein, je pense que ça nous parle des puissances angéliques, des démons, qui ont suivi leur chef, hein, Satan, qui ont abandonné leur position initiale, leur dignité initiale, pour se révolter contre Dieu. Et eux aussi attendent, comme les hommes impies, le jugement, hein, le jugement dernier. Au grand jour, le jour de l'Éternel. Au verset 7, il revient sur terre, en quelque sorte, et parle des habitants de Sodome et Gomorre. Les habitants de Sodome, de Gomorre et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Voilà, c'est ce texte qui est là. Jude continue. Leur rêverie les entraîne... Excusez-moi. Pourtant, j'en étais à... Oui, Jude nous parle de nouveau des faux docteurs au verset 8. Hein. Malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps. Donc là aussi, certainement, l'impureté sexuelle. À rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Alors, quand on parle d'impureté sexuelle dans l'Église, bon, aucune Église n'est à l'abri de ce genre de choses. Hein. Il faut être bien, bien modeste dans ce domaine. Il faut reconnaître que les scandales qu'on a vus récemment, dans le catholicisme notamment, hein, concernant des prêtres pédophiles, et voilà, nous montre à quel point la prédiction de Jude était juste. Et puis bon, ça c'est des scandales cachés, mais il y a aussi des scandales officiels. Hein ? On pense aux églises qui marient des homosexuels, voire qui établissent comme pasteurs des homosexuels. Ça existe. Le rejet de l'autorité en général est une caractéristique de notre monde. Et hélas, cette tendance peut parfaitement contaminer nos églises. Et Jude va prendre là un exemple tiré d'une tradition juive dont on n'a pas les écrits. On voit ça au verset 9. « Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et les disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire « Que le Seigneur te punisse ». Voilà ce qu'a dit l'archange Michel à Satan au sujet de cette contestation concernant le corps de Moïse. Alors tout ça est un petit peu mystérieux. On sait d'après Deutéronome 34, verset 6, que Moïse est mort d'une façon un peu particulière, hein, à un moment soit décidé par Dieu, sur le sommet d'une montagne, et que c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de sa sépulture. Semble-t-il, d'après une tradition juive, il y aurait eu une contestation avec le diable au sujet de cette sépulture, comme si le diable réclamait le corps de Moïse, hein, de ce grand serviteur, alors que c'est Dieu qui s'en est occupé. Et l'archange Michel, qui a donc dû monter au créneau, hein, dans cette circonstance, semble-t-il, eh bien donc, il n'a pas dit, mais... Tu es maudit à Satan, pas du tout, non. Que l'Éternel te réprime. Il ne s'est pas permis d'insulter le diable. Donc il y avait du respect. Hein. Et le respect, c'est vraiment une chose qui manque, comme le dénonce Jude. Verset 10. Ces gens insultent ce qu'ils ne connaissent pas, comme les bêtes privées de raison. Alors il en est de même de ceux qui prétendent aujourd'hui que Dieu n'existe pas, par exemple. La Bible les qualifie d'insensés, qui prétendent que la science peut tout expliquer, qu'on n'a pas besoin de Dieu pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, etc. Comme l'écrit l'apôtre Paul en Romains 1, verset 20, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité » se voit dans ses œuvres lorsqu'on y réfléchit. Alors du coup, Jude dit au verset 11, « Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. » Alors ils ont marché sur les traces de Caïn. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Caïn est le prototype de la religion humaine que Dieu se doit est obligé, semble-t-il, d'agréer, d'après Caïn. Et si ce n'est pas le cas, toute la vieille nature se déchaîne. Jalousie, qui peut aller jusqu'au meurtre, et on sait bien que Caïn, donc, a tué son frère Abel. Deuxième exemple, par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam, encore une allusion à l'Ancien Testament. En effet, un roi cananéen, avait appelé à la rescousse, moyennant finance, un prophète pour maudire Israël. Et ce prophète, c'était Balaam. Il est parfaitement conscient que Dieu ne permettra pas qu'il maudisse son peuple. Mais il tente de le faire quand même, par un entêtement attisé par sa cupidité. Balaam est le type de ceux qui, de tout temps, se sont adonnés au spiritisme, bien que celui-ci soit formellement condamné par l'Écriture sainte, et là en plus, adonné au spiritisme par attrait du gain. Encore un exemple que prend Jude, ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Alors l'histoire de la révolte de Corée, on la trouve également lors de l'histoire de la traversée du désert, c'est une révolte du peuple contre l'autorité instituée par Dieu, en l'occurrence Moïse. De nos jours, on peut faire le parallèle avec l'insoumission aux autorités instituées par Dieu dans l'Église, les pasteurs et les anciens. Au verset 12. Jude dit que ces faux docteurs, ces faux frères, sont des taches dans vos agapes. L'apôtre Paul reprendra ça en 1 Corinthiens 11, au sujet des agapes des Corinthiens. Il leur dit « Vos réunions, au lieu de contribuer à vos progrès, vous font devenir pires. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut plus appeler ça prendre le repas du Seigneur. » En effet, on en a déjà parlé, j'avais donné un message là-dessus. Le comportement inadmissible de certains soi-disant chrétiens lors des repas communautaires de l'Église était marqué par le mépris des frères et sœurs moins fortunés qui n'avaient pas grand-chose à manger. Jude continue au verset 16. « Ils sont pareils des nuages qui ne donnent pas de pluie à des arbres qui ne donnent pas de fruits. » Des nuages qui ne donnent pas de pluie peuvent sembler prometteurs, mais ils sont inutiles pour le cultivateur et bientôt chassés par le vent. De même, les arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit, sont des arbres inutiles. Le comportement de ces faux frères démontre qu'ils ne portent aucun des fruits de l'esprit, pour une bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit qui demeure en eux. Au verset 13, ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte. Pourquoi Jude nous parle des vagues furieuses de la mer? La mer est dans la Bible le lieu où demeure la bête, le Léviathan, image des puissances diaboliques. Jean, dans l'Apocalypse, reprend cette image dans son chapitre 13, la bête qui monte de la mer. Et d'ailleurs, dans la nouvelle création, en Apocalypse 21, on constate cette chose étonnante, la mer n'existe plus. La mer est une image des peuples qui rejettent Dieu et dont les vagues, l'agitation populaire, ne produisent que péché et abomination. Jude prend une autre image, il ressemble à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. Allusion probable à ceux qui se revendiquent d'être des porteurs de lumière, les philosophes athées, des scientifiques athées qui s'imaginent pouvoir expulser Dieu de la compréhension de sa création. Au lieu de marcher dans la lumière divine, ils la rejettent et se condamnent eux-mêmes à l'errance dans les ténèbres. Alors là, on arrive sur une chose curieuse. Jude fait allusion à la prophétie d'Enoch, versets 14 à 16. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch. Alors, vous pouvez chercher dans vos Bibles une prophétie d'Enoch, vous ne la trouverez pas. Le septième patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Alors, en fait, Jude là fait référence à un livre apocryphe, donc un livre qui n'est pas dans nos Bibles. Ce qui peut nous surprendre, mais rappelons-nous que l'apôtre Paul lui-même cite librement des prophètes païens. Quand ils disent quelque chose de juste, pas de problème de les citer, hein. Bien que provenant d'un livre apocryphe, Jude utilise cette citation parce qu'elle est vraie. Il fait allusion au juste jugement de Dieu qui demandera des comptes à tous les impies, à tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu et qui se sont permis de l'insulter, ce qui est un sacrilège. Et vous avez noté que Jude ajoute « Ce sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et esclaves de leurs mauvais désirs. » De plus, ils s'égarent dans de grands discours sans valeur, et ils flattent les gens pour en tirer profit. On rejoint la maxime bien connue de Jean de La Fontaine, hein, « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Alors, heureusement, on arrive après tout ce tableau plutôt sombre, hein, des exhortations positives de Jude, et il dit « Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. À la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu, des gens sans Dieu, qui n'ont pas l'Esprit. » Rappelez-vous Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, tout ce que Jude vient de dire caractérise particulièrement la fin des temps. Les gens sont moqueurs. Il n'y a qu'à voir comment on tourne en dérision les autorités de nos jours, y compris les autorités civiles. Hein. Ils vivent au gré de leurs propres désirs, sans se soucier du bien des autres. Ils n'ont pas de respect pour Dieu. Voir les Staline, Lénine, Marx, Darwin, Michel Onfray, etc. Et verset 19, Jude ajoute, ce sont de tels gens qui causent des divisions. Hein, intéressant ça. L'Église, hélas, ne se laisse que trop contaminer par cette tendance. Ils sont sans Dieu, ils n'ont pas l'Esprit. On arrive au verset 20. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par l'Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est, je pense, ne jamais en douter. Nous accorder la vie éternelle est un cadeau de Dieu, mais c'est aussi une promesse qu'il tiendra sûrement, car il n'est pas un homme pour mentir. Il rajoute « Ayez de la compassion ». Non, c'est après. Voilà. Au verset 22, « Ayez de la compassion pour ceux qui doutent ». Rappelons-nous que Jean-Baptiste lui-même, qui avait annoncé à tout le monde que Jésus était le Messie, une fois qu'il a été injustement emprisonné par Hérode, a eu des doutes. Il s'est demandé si vraiment Jésus était le Messie. Et Jésus a dû lui envoyer quelques-uns de ses disciples pour lui apporter la preuve qu'il accomplissait toutes les prophéties qui avaient été faites à son sujet par les prophètes de l'Ancienne Alliance, notamment les miracles qu'il produisait. Que les aveugles voyaient, que les sourds entendaient, etc. Preuve de la nature messianique de Jésus. Jean ne s'était pas trompé, c'était bien le Messie. Mais il a eu des doutes. Alors si un homme comme Jean-Baptiste a pu avoir des doutes, qui sommes-nous pour ne pas en avoir, hein? Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Donc c'est le verset... Voilà. Le verset 23. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Et pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. Alors ce sont probablement ces gens-là, les gens qui se sont laissés berner par les enseignements des faux prophètes. Et pour ceux qui se sont laissés entraîner à l'immoralité, sauvez-les, mais en veillant sur vous-même, par crainte de la contagion, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité, tout comme on brûle des habits contaminés par une bactérie mortelle. Et on arrive, cette épître de Jude se clôture par une doxologie, c'est-à-dire une façon de rendre l'honneur, la gloire à Dieu, qui est absolument merveilleuse. Et je vous propose de la lire ensemble. On va juste remplacer le « vous » par « nous ». Hein ? Alors lisons-la. Vous l'avez sous les yeux. « À celui qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Donc on est arrivé à la fin de cette épître. Comment est-ce qu'on pourrait la résumer en quelques mots? Premièrement, tenons ferme à la doctrine apostolique qui nous a été révélée une fois pour toutes, le fameux apax, pas d'ajout ni de retranchement. Un travers dans lequel est tombé les deux pieds à la fois, tout le catholicisme et la religion orthodoxe. Ayons en horreur les faux docteurs et leurs fausses doctrines. Mais soyons compatissants, tout en étant vrais, envers ceux qui se sont laissés prendre aux faux enseignements. Eh bien, c'est sur cette exhortation que nous terminons cette brève étude sur l'épître de Jude.